Session sur la rédemption le 22 mai 1993 à Rimont par le Père Philippe, 13e conférence.
Je prends tout de suite les questions. L'après-midi, c'est bien de se réveiller. Mais moins éveillé que matin. Pourriez-vous expliciter ce que vous voulez dire en disant qu'il n'était pas nécessaire que Jésus meure, mais qu'il était nécessaire qu'il ressuscitât. Très bien. C'est bien. Je n'ai pas compris. Comment peut-on ressusciter sans mourir? Comment entendez-vous la résurrection du Christ et notre résurrection n'est-elle pas relative à notre mort ou dépasse-t-elle totalement notre mort? C'est de quelle mort qu'on ressuscite? Oui, je voulais dire, attention, entre la mort et la résurrection du Christ, il y a un lien de nécessité. Tandis que lorsqu'il s'agit de la mort du Christ, tout relève de la sagesse du Père. De la sagesse du Père, du bon plaisir du Père, disons. C'est plus juste. Parce que la mort et la résurrection relèvent aussi de la sagesse. Il y a un lien de nécessité entre la mort de Jésus et sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Normalement, on verra ça. Normalement, le Verbe assumant la nature humaine, le Fils bien-aimé du Père assumant la nature humaine, mystère de l'incarnation, cette nature devrait être dans un état de gloire. De fait, Jésus a une nature qui est capable de souffrir. Et ceci à cause de la finalité du mystère d'incarnation. Il s'est incarné pour nous sauver, et nous sauver à travers la croix. Vous voyez ? Si, autrement dit, si le mystère d'incarnation se réaliser en dehors du mystère de la croix. C'est ce qu'on va voir, les motifs de l'incarnation. L'incarnation aurait pu exister uniquement, comme certains l'ont dit, certains théologiens l'ont dit, comme on le dit encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas bête, du reste, c'est une possibilité. Le mystère d'incarnation aurait pu très bien exister uniquement pour achever la création. Dieu veut que l'œuvre de la création soit parfaite. Elle s'achève dans le mystère de l'incarnation. Et donc, à ce moment-là, la nature humaine du Christ aurait été immédiatement glorifiée. Parce que Jésus est fils de Dieu, et fils du Père. Et la nature humaine aurait été assumée par le Verbe d'une manière telle qu'elle aurait connu tout de suite la gloire. De fait, le mystère de l'incarnation a lieu en vue de la rédemption. Et cette rédemption, Dieu veut qu'elle soit par le mystère de la croix. Il fallait donc que l'humanité sainte du Christ soit capable de souffrir. Mais petit raisonnement. C'est le raisonnement du théologien, ça. Je voulais dire, en disant qu'il n'était pas nécessaire que Jésus meure. Il n'était pas nécessaire que Jésus meure pour nous racheter. Nous le verrons, ça. Alors, je n'explique pas plus maintenant, parce que je voudrais reprendre le sujet tout à l'heure. surtout la résurrection du Christ. Ah. On dit toujours la croix glorieuse. La croix, nous le verrons, est un acte de victoire de l'amour. La croix, vue de l'extérieur, est une défaite, terrible défaite, la plus terrible des défaites. Donc, extérieurement, comme la victoire du démon. Le démon a eu comme intermédiaire Judas. C'est sous l'action du démon que Judas a trahi. C'est pour ça que Judas peut être pardonné. Parce qu'il n'a pas péché tout seul. Le démon a une haine contre le mystère d'incarnation. Ça, il faut bien le comprendre. Que Dieu aime tellement les hommes qu'il s'incarne, c'est insupportable pour le démon, qui considère que l'ange est infiniment supérieur à la nature humaine. Ce qui est vrai, en partie. L'homme peut aller plus loin dans l'ordre de l'amour que les anges. C'est pour ça que Dieu les a créés. Ils sont beaucoup moins intelligents. Ils ont une capacité d'aimer qui est folle. C'est vrai. Les hommes sont quelquefois fous d'aimer. Et Dieu les a créés pour qu'ils soient fous dans l'amour. Ils ont une capacité d'aimer qui va beaucoup plus loin. Mais ils sont beaucoup moins intelligents. Et le démon, lui, dans son orgueil, juge que la seule hiérarchie digne de la sagesse de Dieu, c'est une hiérarchie selon les capacités intellectuelles. Et donc les démons, et donc les anges sont les premiers. Et les hommes, les petits derniers, petits avortons, point de vue intelligent, c'est vrai, des petits avortons. Quand les hommes se glorifient de faire le TGV, les anges rient. Ils sourient. Ces petits derniers, ils font le TGV. Et ils croient qu'ils ont obtenu le ciel. Mais non, pauvres petits. Parce que c'est une victoire sur la quantité. Pas sur la qualité, sur la quantité. La vitesse. Le TGV, je comprends. La pauvre France, vieille France. Pauvre France, elle arrive à faire encore quelque chose de merveilleux. Que le TGV français est peut-être supérieur au TGV japonais. Vous comprenez que c'est extraordinaire, ça. C'est merveilleux. C'est étonnant. Les anges sourient. Ils sourient. Parce que eux ont un regard qualitatif. L'homme, il est épris de quantité. Beaucoup d'hommes aiment mieux avoir beaucoup de vin que de la piquette. Le vin européen, voyez ce que ça veut dire. Le vin, la piquette, rempli de mélanges. Vin européen, on l'annonce. J'ai vu la bouteille de vin européen, j'ai dit, mais où est-ce que c'est? Mais c'est un mélange. C'est la coopération européenne. Alors il n'aura plus aucun goût. Ça fait rien, il y en aura beaucoup. Et on est content. Quantité qui séduit toujours beaucoup plus que la qualité. Parce que la qualité, c'est l'élite. C'est embêtant en démocratie. C'est embêtant qu'on ait l'élite. Il faut leur couper la tête. Ça, l'aspect quantitatif pourra se développer. Et c'est vrai, les victoires qu'on obtient par la technique, c'est des victoires sur la quantité. La vitesse. Ben c'est prodigieux, du reste, si vous êtes en admiration dans ça. Prenez les vaches quand on regardait le TGV. Hein, et le regardez, vous savez, avec des yeux. Oh là là. Elle roulait des yeux. Là, en regardant le TGV. Ça me faisait penser aux anges. pauvres hommes qui sont tellement heureux. Bon, alors, la résurrection du Christ, c'est la victoire de l'amour sur la mort, sur le péché. Et cette victoire, elle existe dans le mystère même de la croix. Extérieurement, la croix est la victoire du démon, un échec au plan extérieur. Et la croix est une grande victoire d'amour au niveau intérieur. Et c'est cette victoire d'amour qui se manifeste avec la résurrection. La résurrection, c'est la manifestation des victoires de l'amour. Sur le pauvre corps humain qui, à ce moment-là, est complètement transformé par l'amour infini du Christ pour son Père. Et notre résurrection sera semblable à celle de Jésus. Donc, on reviendra là-dessus. Le jeu de la sagesse, elle n'est pas si sérieuse. Elle joue. Des peuples crient famine, la guerre, supplice, mère et enfant. Tout à fait d'accord. C'est pas comme ça. Faites attention, hein. Ne mêlez pas ce qui se passe sur la terre. Et quand je parle du jeu de la sagesse, le jeu de la sagesse, c'est le jeu de la sagesse. Donc il faut comprendre la contemplation de Dieu et comprendre que Dieu a un sentiment, on le disait au réfectoire, du moins le réfectoire des frères, parce que ce n'est pas la même lecture, je présume. Ce passage si extraordinaire de l'Exode, j'ai entendu des cris. C'est Dieu qui dit ça. Il dit ça toujours. Tu entends les cris de violence, les cris de souffrance de tous ces enfants blessés de cette guerre. Il y a toujours ces deux regards. Et l'un ne doit pas exclure l'autre. C'est pour ça qu'en disant ça, je n'exclus pas l'autre regard de miséricorde. On est miséricordieux. Je crois que si on aime, la vraie miséricorde, c'est ça. Et l'amour est d'abord contemplation de Dieu. Et l'amour permet de découvrir la sagesse qui joue. Et c'est dans cette lumière-là que je peux combattre à la misère des hommes. Et Dieu a compati d'une manière telle qu'il a permis que son fils meure sur la croix. Alors, nous y reviendrons là-dessus. Vous voyez, comprenez que notre pauvre langage, il ne faut jamais le comprendre dialectiquement en opposition vis-à-vis de ce qu'on ne dit pas. On dit une chose, ça n'exclut pas l'autre chose. On parle de la contemplation de la sagesse, ça n'exclut pas la miséricorde de la sagesse. Le jeu de la sagesse n'exclut pas la miséricorde. Le jeu des hommes risque quelquefois d'exclure la miséricorde. Parce que nous sommes limités, nous, dans notre connaissance et dans notre vie. Mais Dieu est infini. Alors il lui dit des choses qui sont pour nous. C'est très vrai, il y a des tas de choses qui se passent dans l'univers d'aujourd'hui que je ne comprends pas. Vous savez que c'était Rostand le grand évolutionniste, biologiste, qui cherchait l'existence de Dieu. Il a dit son vivant à son cher ami que je connaissais bien. Je crois qu'il n'y a pas un seul salon dans Paris qui parle autant de Dieu le dimanche après-midi que chez moi. Il cherchait éperdument. Il disait à la fin de sa vie, je crois que c'est parce que dans ma jeunesse, j'ai été élevé dans un milieu scientiste du début du siècle. Que j'ai tellement de peine à découvrir Dieu. Et le grand obstacle pour lui, c'était la souffrance du monde. Je comprends. Si Dieu existe, il est infiniment bon. Si Dieu est infiniment bon, comment peut-il laisser tant de souffrance? Et alors, on retrouve toujours le mystère de la croix. La souffrance, pour l'homme, pour le philosophe, est un scandale. Et c'est un scandale pour chacun d'entre nous. Du scandale peut naître deux choses. La révolte. Et accuser Dieu de ce qu'il n'est pas responsable. Et du scandale peut naître, au contraire, un désir encore beaucoup plus grand de rechercher la vérité. Il ne faut jamais l'oublier. Être scandalisé par la souffrance, c'est tout simplement être humain. Et notre intelligence humaine est scandalisée par la souffrance. Et Rostand le dit avec beaucoup de force. Mais alors, où il y avait quelque chose qui n'était pas juste, c'est quand il disait, cette souffrance m'oblige de poser que Dieu n'existe pas. Alors je dirais non. Là, il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. L'existence de la souffrance n'exige pas de poser que Dieu n'existe pas. Il faut comprendre que Dieu a créé des êtres, des réalités qui sont vivants. Et qui sont des esprits. Et en les créant, Dieu, de fait, leur a laissé la liberté. Ça, c'est un fait. Dieu ne pouvait pas créer des êtres spirituels sans leur laisser la liberté. Une liberté qui consiste à accepter et à recevoir ce qui est bon. Et une liberté à s'enorgueillir. C'est le péché d'orgueil que le théologien souligne comme le péché. Et le philosophe, de son côté, souligne que la faute d'orgueil, le philosophe parle plutôt de faute que de péché, la faute d'orgueil est la grande faute de l'homme. Et dans l'orgueil, on n'accepte que ce qu'on comprend. On demeure dans son vécu. Et donc, de notre vécu, nous ne pouvons pas conclure qu'il n'existe pas un être premier. De notre vécu, on peut simplement découvrir qu'il y a en nous quelque chose de merveilleux comme capacité. capacité de générosité et de don, comme recherche de la vérité. Et il y a en nous aussi une force qui ne cesse de nous attirer vers nous pour nous replier sur nous. Les vieux philosophes grecs le reconnaissaient. Et pour eux, ce qu'il y avait de plus terrible dans l'homme, c'était l'orgueil, l'hubris. Il n'avait pas la révélation. Il reconnaissait que l'orgueil peut rendre l'homme méchant, incompréhensible à l'égard des autres, un tyran. Et que c'était l'orgueil la faute des fautes. Et c'est vrai au plan philosophique. Et c'est vrai au plan chrétien. Le philosophe et le croyant se donnent la main. C'est l'orgueil qui nous enfermant sur nous-mêmes nous empêche d'atteindre la vérité. L'orgueil nous replie sur nous-mêmes pour mettre la sincérité au-dessus de la vérité. Conséquence de l'orgueil. Ça. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et comprendre combien, vous voyez, l'orgueil qui replie l'homme sur lui-même fait que l'homme considère qu'il est l'absolu. L'orgueilleux veut toujours être premier. Il n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe devant lui. Et c'est cela fait que l'homme s'enferme sur lui-même et qu'il a un mépris souverain sur les autres. Et c'est pour ça que l'orgueilleux devient méchant. Il est jaloux. Il ne souffre pas qu'il y ait quelqu'un qui peut passer devant lui. Vous voyez, c'est l'orgueil qui nous fait dire que le prochain, l'autre, c'est l'enfer. Parce que l'autre me limite. Forcément, je ne suis pas lui. C'est très ennuyeux de parler à beaucoup de monde, parce que ça fait qu'il y a beaucoup de limites. Et c'est vrai. Que c'est l'orgueil qui ne tolère pas qu'un autre passe devant. Vous dites qu'au début de leur carrière, les théologiens sont fervents. Au début de leur vie, ils croient et que par la suite, ils deviennent plus prudents et espèrent. Hein? Non, je n'ai pas dit espère, ça ne fait rien. Est-ce votre cas? Je vous laisse juge. Je vous ai dit ça comme une constatation que les étudiants de théologie dominicains faisaient entre eux. En l'an 1935. Au seul choix. Et nous supplions Dieu de ne pas tomber dans le piège. En 1935, je vois encore les quelques dominicains, jeunes dominicains étudiants qui disaient ça, ont constaté ça. Et hélas, ça existe encore. C'est pour ça qu'on doit beaucoup prier pour les théologiens. Il ne faut pas oublier que la première souffrance de Marie, ça a été pour les théologiens. Cinquième mystère joyeux. Vous connaissez Jésus en rosaire quand même. Je suis dominicain, alors je le connais. Cinquième mystère joyeux. Jésus a 12 ans, premier enseignement du Christ. Et les théologiens allemands, les bons théologiens allemands, ont fait une caricature admirable. En voyant tous les théologiens cachés. Puis l'enfant Jésus, de 12 ans, « Viens toi, qu'est-ce que tu es ?» Après, « Et toi ?» Jésus savait qu'à 12 ans, on l'écouterait. Et quand il aurait 30 ans, je crois que Nicodème, c'est une pure hypothèse, mais il faut de temps en temps en faire pour être intelligent. Pas s'arrêter aux conclusions, quoi. Bon, alors, je crois que Nicodème avait rencontré, était un de ces théologiens qui avait connu Jésus à 12 ans. Cet enfant prodigieusement intelligent. C'est admirable de voir un petit de 12 ans qui parle de Dieu. Ça devait être extraordinaire, cette leçon que Jésus donnait. Plein de miséricorde, il interrogeait. Il n'y a rien de plus miséricordieux que d'interroger. Vous êtes très miséricordieux quand vous posez vos questions. Ça prouve que vous cherchez la vérité. Et que vous montrez que ce qu'on a dit n'était pas suffisamment clair. Ce qu'on reconnaît. Jésus a 12 ans interrogé. Et on admirait son intelligence. Et pendant ce temps-là, Marie souffrait. Elle était inquiète, angoissée avec Joseph. Et Joseph encore plus que Marie. Et l'angoisse de Joseph s'emparait du cœur de Marie. Vous voyez ce que j'ai toujours trouvé admirable, qu'avant, c'est plus comme ça maintenant, mais avant la réforme liturgique, il y avait le jour de la Sainte Famille, cet évangile-là. C'est merveilleux pour montrer la sainteté d'une famille, de montrer la fuite d'un enfant de 12 ans. C'est extraordinaire, ça. Et c'est merveilleux. Jésus, à 12 ans, n'a rien dit à sa mère, n'a rien dit à son père. C'était si facile. Non. Ça fait partie de cette permission de Dieu. Et Marie a souffert pour l'enseignement de Jésus aux théologiens. Très grand la théologie, très très grand. Mais toujours, quand on regarde quelque chose de très grand, on risque toujours un tout petit peu de s'enorgueillir. Vous dites que selon Jean-Paul II, c'est la méta, j'ai mal prononcé, mais ça revient au même. Mais ça, il dit méta, voyez, parce que méga tentation, ça revient au même. C'est la plus grande des tentations. Mais méta tentation, ça veut dire la tentation par excellence, hors série, si vous voulez. Le méta met hors série, tandis que le méga ne met pas hors série. Hein? Quand la grenouille veut devenir aussi grosse que le bœuf, elle n'est pas hors série. Vous dites que selon Jean-Paul II, la méta-tentation du monde moderne occulte le Sauveur. Et dans le même temps, l'inquiétude face au monde moderne génère un nouveau bouillonnement spirituel. De nouvelles communautés religieuses, de nouveaux charismatiques, etc. Comment gérez-vous ça, ces deux phénomènes? Oui, toujours. Il y a toujours deux phénomènes comme ça. Pour la croix, il y a ce qui est visible et qui est invisible. Toujours. Je comprends très bien que ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, le phénomène après Vatican II, Vatican II a secoué. Certains ont refusé de secouer. D'autres ont accepté de secouer. très drôle quand on a 45 ans ou 50 ans d'être secoué. Quand on a 20 ans, ça va. Parce que c'est encore souple. Alors le vent peut se souffler. Et quand on a 45, 50 ans, c'est pas comme ça du tout. Je me souviens d'avoir été à Rome pendant le concile la veille où l'encyclique Mysterium Fidei allait paraître. L'encyclique que Paul VI a donné pendant le concile. Et alors l'agitation entre les théologiens. Est-ce qu'un pape, durant le concile, peut-il émettre une encyclique? Est-ce que c'est pas le concile à l'émettre? Vous voyez? C'est très joli comme discussion. Alors il fallait simplement répondre, le concile n'est concile que si c'est le pape qui convoque. Donc le pape garde toute son indépendance, toute son autorité. C'est lui qui signe tous les décrets. C'est pas tous les pères. C'est lui qui les signe. Mais évidemment, on comprend très bien les mois. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait un théologien que je connais qui avait donné à tous les évêques et à tous les théologiens un texte qui disait qu'on devait supprimer la transsubstantiation. Pour mettre la transe. Vous voyez, il y a méga, méta, transe. Pour exprimer quelque chose qui dépasse. Mettre transsignification. Transfinalité. Et non pas transsubstantiation. Ceci pour être plus conforme à la mentalité d'aujourd'hui. Parce que c'est plus facile de comprendre signification que substance, finalité que substance. Et par là, supprimer la petite sensibilité de nos frères séparés qui ont beaucoup de peine à supporter le transsubstantiation. Alors ce texte circulait à Rome. Le Saint-Père l'a lu, le Saint-Père, après avoir prié, c'était Paul VI, a émis cette encyclique qui dit que transsubstantiation doit rester parce que transfinalité et transsignification ne suppriment pas transsignification, ne sont pas les mêmes que transsubstantiation. On peut les prendre très bien comme complément, mais pas pour remplacer. C'est très juste, parce que la signification est dans l'ordre intentionnel. C'est un mot philosophique. Transfinalité aussi intentionnelle, tandis que substance touche la réalité. Alors, je me souviens combien le concile secouait nos chers évêques. Certains. Et je vois encore cet évêque qui est mort maintenant, qui était l'évêque des étrangers à Paris, que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup. Il dit, mais c'est curieux, il y a tant d'hérésies aujourd'hui, et le concile ne veut condamner personne. Expliquez-moi ça un peu. Et pour lui, c'était vraiment comme une angoisse. Alors je lui ai simplement dit ceci. Quand on lit l'évangile de Saint Jean, on voit que la dernière semaine, Jésus ne condamne plus personne parce qu'il se met sur la croix. Nous ne savons pas où l'on en est dans l'histoire de l'Église. Ni vous, ni moi. Donc on peut en parler, puisqu'on ne sait pas. On peut émettre des hypothèses. On peut regarder les signes. Jésus nous dit textuellement que les signes seront aussi nets que les petits bourgeons qui poussent, qui annoncent le printemps. Le printemps, on voit très bien quand on regarde après l'hiver, les petites pousses. Il ne faut pas être très intelligent pour découvrir ça. Et Jésus dit qu'il y aura des signes. Et le grand signe, c'est l'angoisse. Selon l'Apocalypse, c'est le dernier signe. C'est pas la guerre. C'est l'angoisse. Il y a un texte de l'Apocalypse qui est extraordinaire là-dessus. On voit que tout le monde se met dans des cavernes, angoissé. Et on comprend très bien que c'est l'angoisse. On est angoissé quand on ne voit plus ce qu'on peut faire demain. Il ne faut jamais parler de demain à un angoissé. Parce que c'est ça qui l'angoisse. On ne voit plus. Tout semble fermé. Alors on est angoissé. Et je vois très bien que le concile marque une étape dans l'Église. Et une fameuse. Quand vous comparez Vatican II au concile de Trente, vous voyez que c'est quand même quelque chose comme secousse que le Concile, délibérément, volontairement, sous l'action de l'Esprit Saint, nous donne. Qu'on ne comprenne pas, qu'on ait de la peine à comprendre ce bon évêque, ne comprenez pas. Alors quand j'ai dit ça, et je lui ai dit, c'est ma grande lumière. Alors il m'a dit, alors, oui, je vois. Si l'Église entre dans sa dernière semaine, la dernière semaine, ça peut durer, hein. Ça peut durer, ne vous affolez pas. Jusqu'à la fin de la retraite, il ne faut pas s'affoler. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des abris. Il ne faut pas s'affoler. Mais c'est possible que ça dure 100 ans, 200, j'en sais rien. Mais c'est une étape. Tous les autres conciles, anathémacites. Le seul concile qui ne dit pas anathémocyte. Comme curieuse. C'est pas le hasard. Ne disons pas que c'est un oubli d'une volonté expresse. C'est un signe. Si on est intelligent, c'est un signe pour un printemps d'église. Et peut-être pour le retour du Christ. Je sais pas. Quand on se retrouvera de l'autre côté, on pensera à ça, n'est-ce pas ? Ce qui est sûr, c'est sûr, c'est un texte. Je vais lire que l'Église ne condamne personne. Concile de charité. Alors on a dit concile pastoral. J'aime mieux personnellement dire concile de charité fraternelle. C'est le concile de la charité fraternelle pour moi. Et c'est le grand concile de la charité fraternelle. Et c'est sûrement dans le renouveau, c'est la charité fraternelle sur laquelle on insiste le plus. C'est la première épître de Saint Jean. On entre dans une ère johannique. Je dis ça pas parce que c'est la communauté Saint-Jean, mais c'est parce que je crois qu'on entre dans une ère johannique. Saint Paul, c'est la lutte. Saint-Jean, c'est la joie et la paix. Et c'est la charité fraternelle. C'est ça l'anatomie dominante dans Saint-Jean. C'est quelque chose de très particulier dans Saint-Jean. Et il y a la lutte. L'Apocalypse. Mais Ce sont les luttes eschatologiques dernières, ultimes. Alors, je crois, voyez, que le concile secoue beaucoup, beaucoup. Et cette secousse, à la fois le démon qui était à l'œuvre avant le concile, si le concile a eu lieu, c'était pour que nous comprenions mieux combien le démon était à l'œuvre et qu'on ne voyait pas toujours. Alors, je crois que la parole du Saint-Père est très juste. C'est qu'on vit actuellement vraiment une lutte beaucoup plus radicale que toutes celles qui ont existé jusque maintenant. Vous voyez, je prends un petit exemple, puisque on est dans ce sujet-là. Quelles sont les luttes eschatologiques? Posez-vous la question. Eschatologique, c'est-à-dire dernière. Pour moi, les luttes eschatologiques regardent les deux alliances fondamentales de l'homme avec Dieu. Il y a deux alliances fondamentales. Il n'y en a pas 36. Il y en a deux. Parce que dans l'homme, il y a deux zones de sacré qui sont les alliances naturelles. Je ne parle pas du surnaturel. Naturel à l'égard de Dieu, à l'égard du Créateur. Première alliance. L'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu. Ou plus exactement, l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas philosophique. Il n'a pas été inventé par les hommes. Il relève des traditions religieuses. Regardez tous les noms de Dieu dans les traditions religieuses. C'est très intéressant à faire ça. Maintenant, il y a de très bons dictionnaires sur les histoires des religions. Et vous voyez, dans toutes les histoires des religions, un nom premier, de l'être premier, Dieu. Et toutes les appellations sur Dieu. Nous disons Dieu, nous, le Très-Haut. Elohim, Allah, voire même des quantités, hein. Le Tout-Puissant, l'Éternel, toujours des noms de Dieu, ça. Il y en a beaucoup de noms de Dieu dans l'Écriture. Il y avait le nom par excellence qu'on n'a pas le droit de dire, si ce n'est en le recevant. Donc, l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Seconde alliance, procréation. Ève, notre grand-mère commune. Ève, selon l'Écriture, après avoir enfanté, mis au monde. Directement par Dieu. C'est quelque chose Là, vous touchez quelque chose de sacré. Mon intelligence humaine, comme intelligence humaine, je ne parle pas de la raison. Bien distinguer les deux. L'intelligence humaine, comme intelligence, est capable d'affirmer l'existence de Dieu. Et donc, d'être en contact. Elle a quelque chose de sacré. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon intelligence. Les anciens, les Grecs, disaient l'intelligence, elle est divine. Parce qu'elle est spirituelle. Elle a quelque chose de sacré. Sans la foi, sans la foi, sans la grâce, humainement parlant, il y a dans l'homme quelque chose de divin, de sacré. Et la procréation a quelque chose de sacré aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle implique le concours avec le Créateur. Et donc, avec la sagesse de Dieu. C'est quand même très étonnant, hein ? Quand je regarde l'histoire de l'Église, Luther a affirmé avec force l'intelligence humaine ne peut pas atteindre l'existence de Dieu. Parce que l'intelligence humaine, elle est brisée à cause des conséquences du péché. Et l'Église catholique,
session sur la rédemption, le 22 mai 1993, à Rimont, par le Père Philippe, 14e conférence.
Je continue les réponses aux deux questions posées. On les verra demain. Pour avancer, je vous disais que cette question sur les convenances de l'incarnation est une question très importante parce que c'est le regard du théologien dans la lumière de la sagesse de Dieu qui sait de comprendre dans la conduite du gouvernement divin la signification de ce sommet, le mystère de la croix, le mystère de la résurrection. Et c'est toujours là où il faut en revenir. Alors, d'abord, Thomas d'Aquin se pose la question, est-ce qu'il convient que Dieu s'incarna ? Ensuite, l'incarnation est-elle nécessaire au relèvement du genre humain ? Alors, la réponse est double. D'une nécessité absolue, non, Dieu pouvait sauver le genre humain autrement. Dans un acte de pure miséricorde, il a voulu qu'il y ait le mystère d'incarnation pour que l'homme, assumé par le Verbe de Dieu dans l'incarnation, puisse œuvrer pour l'homme. C'est une des raisons que souvent les pères de l'Église aiment de soulever ça. C'est en référence à la dignité de l'homme, en référence à la grandeur de l'homme, que Dieu a voulu que l'homme puisse coopérer à son salut. Il coopère à son salut à travers Jésus, qui est l'homme par excellence, le nouvel Adam, et qui est en même temps Dieu. De sorte que son salut n'est pas donné comme un salut qui vient directement de Dieu et uniquement de Dieu. Et lui n'a qu'à le recevoir. C'est un salut qui vient de Dieu, c'est sûr, mais qui vient aussi de l'homme. Parce que Jésus est homme, il est le chef de l'humanité. Et donc, son salut lui est donné d'une manière beaucoup plus proche, d'une manière immanente. Et ceci pour nous faire comprendre combien Dieu aime l'homme. On comprend ça très bien. Vous voyez, quand quelque chose vous vient d'une manière tout à fait autre que vous, elle reste toujours un peu étrangère. Tandis que quand cette réalité provient de quelqu'un de plus grand que nous, auquel on coopère, cette réalité est beaucoup plus proche de nous. Là, le salut vient des hommes et de Dieu. Vient de l'homme et de Dieu. C'est plus juste de dire de l'homme. De l'homme assumé par le Verbe de Dieu. Et ça, c'est une délicatesse de Dieu. Mais les deux grandes délicatesses de Dieu, il ne faut jamais oublier. La première délicatesse de Dieu, c'est que Dieu n'a pas voulu faire un univers le plus parfait qui soit. Pour laisser l'homme l'achever. Si Dieu avait fait un univers absolument parfait, l'homme ne pourrait plus être un artiste. L'art achève l'œuvre de la création de Dieu. Si donc Dieu avait fait la chose absolument parfaite, chaque fois que l'homme interviendrait, ce serait diminuer l'œuvre de Dieu. Et c'est cette parole, vous savez, de Dante, qui est si belle. L'œuvre d'art est petite fille de Dieu. J'aime beaucoup cette parole. L'œuvre d'art est petite fille de Dieu. C'est l'homme qui l'a fait. Et comme l'homme est fils de Dieu, l'œuvre d'art est petite fille de Dieu. Et quelquefois, il y a des ressemblances plus grandes entre les petites filles et les filles. Hein ? Les grands-pères savent très bien ça. C'est curieux, ça. Ça montre, vous voyez, la délicatesse de Dieu, ça, pour nous. Et l'amour de Dieu pour nous. Dieu peut aimer plus quelque chose qui vient de nous, que nous faisons avec son aide, que la chose qui vient directement de lui. On en a un exemple très frappant pour l'Eucharistie. Dieu aime plus se servir du fruit du travail de l'homme que de se servir directement de quelque chose qui serait naturel. Il se sert du pain et du vin, une œuvre humaine. Petite fille de Dieu. Et elle est magnifiquement petite fille de Dieu, puisque grâce à la consécration, c'est le corps du Fils bien-aimé. Vous essayez de comprendre ça, parce que c'est une vision très belle et très grande. Il y a des philosophes qui disent que l'univers, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Mais non, c'est l'homme, c'est pas le chef, c'est pas l'univers. Dieu a créé tout l'univers physique pour l'homme. Je sais qu'aujourd'hui, certains ont dit que toute cette vision-là est une vision ancienne, moyenâgeuse. Non, non. Elle n'est pas moyenâgeuse. C'est Freud qui dit qu'on ne peut plus le dire. Mais Freud n'est pas un théologien, ni un philosophe. Alors on peut le battre sur ses propres arguments. Il y a cela qu'il faut regarder. Parce que ça, c'est très grand. Et c'est très beau. Et il faut considérer que Dieu a voulu sauver l'homme par l'homme. Et ça, c'est encore une délicatesse de Dieu. Il a voulu que le mystère d'incarnation soit l'œuvre de la femme, la maternité divine de Marie. Chaque fois que Dieu peut se servir de l'homme, il s'en sert, tellement il l'aime. C'est merveilleux, ça. Et ça, c'est un regard de théologien sur ce qu'on voit. Et c'est un regard de théologien qui est très important pour notre fin de XXe siècle. Demandez-en. Parce que ça fait comprendre la délicatesse de Dieu pour l'homme. Et on en a besoin, nous. On a besoin de comprendre cette délicatesse de Dieu. Dieu a plus de respect de notre liberté que le meilleur de nos amis. Alors vous savez, l'amitié fait que l'ami a beaucoup de respect pour notre liberté. C'est ça qui caractérise le véritable ami. Eh bien, Dieu a plus de respect vis-à-vis de notre liberté que le meilleur de nos amis. Tellement il nous aime. Et tellement Dieu veut que nous agissions avec cette liberté à son égard. C'est-à-dire dans un véritable amour. Alors retenez ces trois affirmations. Vous ne retiendrez que ça de la session théologique. Ça en vaudrait la peine. Ça changerait beaucoup de choses dans votre vie. Trois affirmations qui sont très très fortes parce que ça nous fait comprendre ce que c'est que la bonté de Dieu. Alors voyez, sauver l'homme par l'homme est quelque chose de plus excellent pour l'homme que si Dieu avait sauvé l'homme directement. Or, avec le mystère d'incarnation, il sauve l'homme par l'homme. Alors, troisième article, dans l'hypothèse où l'homme n'eût pas péché, Dieu se serait-il incarné? Alors là, c'est une très grave question, très actuelle. Très actuelle. Et elle est très intéressante. Parce que ça fait toucher des spiritualités différentes. Ça va très loin. Je ne peux pas voir toutes les conséquences, parce que ça nous amènerait trop loin. Mais il faut y réfléchir. Saint Thomas montre que le théologien part toujours de la révélation. Et non pas d'hypothèse. Comme le philosophe part tout le temps de la réalité existante, l'homme, et non pas d'hypothèse. L'hypothèse, c'est le possible. Il y a des théologiens du possible. Dès le XIVe siècle, et le XVe siècle, il y a eu des théologiens du possible. Et il y en a aujourd'hui. Mais c'est pas loin de la théologie. Il n'y a pas une théologie des futuribles. Et il n'y a pas une philosophie des futuribles. Des possibles. Non. On part de la réalité. L'homme tel qu'il est. Et on parle de la réalité révélée. Et saint Thomas dit, le mystère de l'incarnation relève d'un acte libre de Dieu, d'un acte libre de la sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu et les actes libres de Dieu, nous ne pouvons les atteindre que par la révélation. Donc, il ne s'agit pas de se poser la question, l'incarnation est-elle possible ? Oui, elle est possible. Mais il s'agit de comprendre comment l'incarnation nous a-t-elle révélée. Et il nous montre, à la suite de la grande majorité des pères de l'Église et de l'Écriture, que chaque fois qu'on annonce un sauveur, qu'on annonce le mystère d'incarnation, c'est toujours comme sauveur des hommes. Toujours. Et donc le mystère de l'incarnation est toujours lié au salut. Si Dieu s'est incarné, c'est pour nous sauver. Et saint Thomas ajoute, cependant, on ne peut pas dire qu'il était impossible que Dieu s'incarne, même si le péché n'aurait pas lieu. Donc, vous voyez, la modération de l'affirmation de saint Thomas, je crois qu'il faut bien la comprendre. Elle est très intéressante. Il dit, puisque l'incarnation relève d'une volonté de Dieu, regardons ce que dit l'Écriture. Il constate que la plupart du temps, il y a quelques exceptions, le mystère de l'incarnation est toujours révélé dans le contexte du Sauveur. C'est pour nous sauver que Dieu s'incarne. Donc, le théologien regarde l'incarnation dans la lumière du Sauveur, dans la lumière de la rédemption. Oui, c'est du bon sens du théologien. Et saint Thomas, connaissant la position de certains, dit « Cependant, nous ne pouvons pas dire que si l'homme n'avait pas péché, sûrement qu'il n'y aurait pas eu d'incarnation. » Il dit non, nous devons dire que si l'homme n'avait pas péché, il eût été très possible, ou possible tout court, que Dieu se soit incarné. Donc c'est pas une absurdité. Et la raison, c'est tout simplement que certains donnent encore aujourd'hui. L'incarnation achève la création. C'est pour l'achèvement. Un peu la vision de Teilhard, actuelle. C'est l'achèvement. C'est très vrai que grâce à l'incarnation, l'humanité dans le Christ connaît une grandeur, un épanouissement unique. Et l'âme humaine du Christ qui a été créée par le Père, par la très sainte Trinité, est un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre. Et donc, c'est possible que même si il n'y aurait pas eu le péché, Dieu ait créé son chef-d'œuvre. C'est pas impossible. Mais cependant, encore une fois, il faut bien comprendre que le théologien ne s'aventure pas dans le domaine des possibles. Il s'aventure uniquement dans ce qui est révélé. Alors, on en arrive à l'article 4. Le motif principal de l'incarnation a-t-il été d'effacer le péché originel plutôt que le péché actuel? Le péché originel, le péché d'Adam, qui, selon l'enseignement d'Église, concile de Trente, le premier péché d'Adam a des conséquences sur toute la descendance. Des fils, petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-petits-fils d'Adam. Je ne sais pas où vous situez. Hein. Et par le fait même, le mystère d'incarnation a eu lieu en premier lieu pour nous libérer de toutes les conséquences du péché. Jésus vient nous purifier en premier lieu de la faute originelle. Ensuite, de toutes nos fautes graves, personnelles. Ensuite, de toutes nos fautes véniales. Et de nos imperfections. Tout est pris par le Christ. Il a voulu être, par le mystère de l'incarnation, paraître en face de Dieu le Père, en face de son Dieu, comme le seul responsable de tous les péchés. Ça, c'est très important. Alors après, c'est des questions secondaires pour la question du temps. Convenait-il que Dieu s'incarna dès le commencement du monde ? Convenait-il que l'incarnation fût différée jusqu'à la fin du monde ? Alors on veut savoir si l'incarnation arrive à quel moment c'est le plus favorable. Là aussi, c'est un fait. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu que Jésus vienne quand l'humanité était un peu plus adulte, où la science et la technique étaient plus avancées? Jésus n'aurait pas été alors l'ouvrier, le quatre-sauce de Saint-Joseph. Il aurait été dans l'informatique. Il aurait été dans les banques, il aurait été, et ainsi de suite. Il aurait eu un petit ordinateur, ou un merveilleux ordinateur. Pourquoi, à cette époque? Il y a des raisons qui sont très cachées, le théologien essaie d'en comprendre. Saint Thomas relève toutes les raisons des pères de l'Église. Vous voyez que cet article est très important, il est beau, il est facile à lire, il est très grand, parce qu'il jette une grande lumière de sagesse sur le mystère de l'incarnation et sur le mystère de la rédemption. Alors si vous voulez, parce que je crois que c'est important, essayons de mieux préciser, dans une perspective plus actuelle, et peut-être de théologie mystique, certainement de théologie scientifique. Il faut jouer sur tous les claviers. Théologie biblique, théologie de l'Église, on a commencé par ça pour vous. Théologie scientifique de saint Thomas, voilà ce que je vous ai dit. C'est beau, c'est une arête très grande. Et puis, maintenant, essayons de regarder dans une perspective de théologie mystique. Dans une perspective de théologie mystique, je crois qu'il faut se poser la question, pourquoi le Père, Sainte Trinité, a-t-elle voulu que le mystère du rachat des hommes, du salut des hommes, s'opéra par la croix? Parce que on a vu en théologie scientifique de saint Thomas que Dieu le Père pouvait nous sauver librement, indépendamment du Christ. Et nous pouvons affirmer que Dieu le Père, acceptant et voulant l'incarnation, aurait pu nous sauver à travers n'importe lesquelles des activités du Christ. Alors pourquoi c'est par la croix ? Dieu, le Père, la très sainte Trinité, aurait pu très bien faire que Jésus nous sauve par le mystère de Nazareth. 30 ans de vie obscure, de vie cachée. Quand même méritoire ça, quand on est le Fils de Dieu. Jésus côtoyait des petits camarades tous les jours. Qu'il considérait comme un petit camarade. C'est beau de la part de Dieu. Hein, pas vouloir dire, mais je suis fils de Dieu, moi. Il a accepté une vie cachée. Il a accepté de naître d'une mère, selon la chair et le sang. Il aurait pu dire au Père, j'accepte l'incarnation, à condition que vous y mettiez. C'est-à-dire que pour moi, l'incarnation se fasse tout de suite avec un homme adulte. Il n'aurait pu le faire. Le nouvel Adam, roi des rois, seigneur des seigneurs, il aurait pu demander ça. Un petit dialogue avant, une petite entrevue avant. Du fils avec le père. Moi, je veux bien cette mission. Je veux bien, j'accepte cette mission. Mais alors, hein, quand même, que dès le premier instant, je sois considéré comme le Seigneur des Seigneurs. J'accepte que ça. C'était légitime. On n'a rien eu à dire. Rien du tout. Non, il a accepté d'être dans le sein maternel. Pendant 9 mois. Et le Père a voulu que ce soit sous l'action de l'Esprit-Saint. Que Marie a été mère en coopérant avec l'Esprit-Saint. Maternité divine, maternité. La fécondité de Marie n'est pas une fécondité comme celle de toutes les autres mères. C'est une fécondité bien plus que royale. C'est une fécondité divine sous l'action de l'Esprit Saint. Je l'affirme parce que aujourd'hui certains n'y croient plus. Toute l'Église jusque maintenant l'a affirmé. Marie est vierge en concevant, elle est vierge en enfantant. C'est la doctrine de l'Église classique. Et ceci pour que nous comprenions mieux la dignité de l'enfant Jésus, la grandeur. Et Albert le Grand, qui a été le maître de Thomas d'Aquin. Albert le Grand du XIIe siècle, qui de son temps était le plus grand des savants. Albert le Grand dit, si Dieu a voulu que Marie soit mère par l'action toute puissante du Saint-Esprit, c'est pour que l'enfant Jésus ressemble plus à sa mère que n'importe quel autre enfant. Et ça, c'est la tendresse du XIIe siècle. Vous savez bien, l'architecture du XIIe siècle a quelque chose d'unique. Sénanque. Ceux qui n'ont pas vu Sénanque, il faut qu'ils le voient avant de mourir. Parce que ça fait partie d'une merveille. L'architecture d'une pureté, d'une limpidité extraordinaire. cette réflexion d'Albert Legrand, parce qu'elle est tellement humaine, et elle fait découvrir ce que Dieu a voulu comme lien entre Jésus et Marie. Aucune mère n'a aimé son enfant comme Marie. Et aucun enfant n'a aimé sa mère comme Jésus. Il n'y a jamais eu une ressemblance aussi grande entre un enfant, un fils et sa mère. Et Albert Legrand dit, c'est très simple, parce que il n'y a qu'un atavisme. Vous savez, quand un oriental, quand un asiatique épouse un européen, hein, on voit ce mélange, ce croisement dans l'enfant. Et c'est beau. Moi, j'aime beaucoup de regarder ça. C'est extraordinaire. Ils sont souvent très intelligents, tu vois. Très, très. Il y a une espèce de mélange étonnant. Chacun d'entre nous, nous portons deux atavismes. Je ne dis pas un bon et un mauvais. Non, non. Tous les deux bons, avec des tares, des limites. Il peut y avoir du côté maternel un grand-oncle bandit. Alors on porte quelques gènes du bandit. Pas très drôle. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Puis des fois, c'est de l'autre côté. Ce qui est merveilleux pour Jésus, c'est que Marie est purifiée radicalement. Puisqu'elle est immaculée. Aucune tare en elle. Rien. Pureté absolue dans son corps, dans sa sensibilité, dans ses passions. Et l'Esprit Saint a été source de fécondité pour Marie. De sorte que l'enfant Jésus ressemble uniquement à sa mère. Ça fait partie du mystère d'incarnation, ça. Dieu aurait pu très bien vouloir que tout simplement le fait d'accepter d'être le fils de la femme aurait suffi pour nous sauver. Parce que quand même, pour un Dieu, c'est pas mal. D'être le fils de sa créature, c'est quand même assez génial. D'être le fils de sa créature. Dieu aurait pu faire ça. Dieu aurait pu faire que un acte d'adoration du cœur de Jésus, de la volonté du Christ, de la volonté humaine du Christ, liée à sa volonté divine, qui fait que l'acte du Christ est théandrique. C'est le mot qu'emploient les pères de l'Église et Thomas d'Aquin. Théandrique, c'est-à-dire divin et humain. Théos, anthropos. Théandrique, que cet acte eût suffi pour nous sauver. Un acte d'adoration du Christ. Quand Jésus, au plus intime de son cœur, adorait son Père, et même quand il était dans le sein maternel, il adorait son Père. Le Père aurait pu faire que Jésus ouvrier auprès de Joseph. Oui. Ça aurait été bien. Que Jésus ouvrier de Joseph, faisant une petite chaise, soit l'acte par lequel il sauve le monde. Ça aurait pu être comme ça. Tu aurais pu faire que Jésus, au désert, sauve l'humanité par le désert. le père aurait pu faire que son fils, bien-aimé, sauve l'humanité. Quand il lisait la loi dans la synagogue, il aurait pu faire que Jésus sauve l'humanité par ses miracles. Vous voyez les charismatiques, là. Ça, ils auraient mis ça en lumière. Jésus aurait pu sauver l'humanité par ses charismes. Il sauve un homme, un infirme. Il lui dit, prends ton grabat et marche. Cette parole de Jésus aurait pu être une parole qui sauve toute l'humanité. Par son enseignement, honneur aux théologiens, Jésus aurait pu sauver toute l'humanité par son enseignement. Vous voyez, toutes les actions du Christ, étant théandriques, auraient pu, selon le bon plaisir du Père, être le sommet de l'incarnation. Puisque par là, les hommes étaient sauvés. C'est très important, cette petite considération, pour qu'on comprenne mieux cette volonté du Père. Sauver les hommes par le mystère de la croix. Et à ce moment-là, on doit se poser la question, pourquoi ? Autant qu'on peut le savoir. Sauver les hommes par le mystère de la croix. Par le mystère de l'agonie et le mystère de la croix. Mais surtout la croix. Et sauver les hommes par le mystère de la croix dans toute sa taille. Une croix qui implique une agonie. Il aurait pu mourir dans l'agonie. Une tristesse à en mourir. Un mystère de la croix qui implique la mort de l'amour d'amitié à l'égard de Caïn, le traître. On a été trahi par un ami très cher. Il y a une mort de l'âme. Il y a une mort du cœur. Ça, on le sait très bien. Pour tous ceux qui ont connu des grandes amitiés. Et savoir que l'ami nous trahit, c'est une mort intérieure. Jésus, à la croix, a connu toutes les morts dont l'homme est capable de vivre. Capable de mourir. Voyez, le vécu, comme on dirait dans le langage aujourd'hui, le vécu du calvaire, de la mort du Christ. Il y a là quelque chose de très grand que les théologiens du Moyen-Âge, même saint Thomas, n'a pas beaucoup regardé. Et aujourd'hui, en théologie mystique, nous devons le regarder. Nous en avons besoin. Saint Thomas dit, et il a raison de dire, que Jésus a porté toutes les conséquences du péché. Et c'est pour ça que certains textes de l'Écriture disent qu'il s'est fait pécheur. C'est-à-dire, il a pris sur lui toutes les conséquences du péché, sauf culpabilité je suis dans une vision psychologique, je dirais, c'est impossible. Alors, pas du tout. C'est très possible de prendre toutes les conséquences du péché. Il est l'homme de douleur. C'est possible parce que son humanité subsiste dans le Verbe de Dieu. Son humanité, celle qu'il tient de Marie, celle qui est si fragile et si merveilleusement fragile. Vie, une vitalité divine ou divinisée, d'une humanité d'une sensibilité unique, d'une affectivité unique. Jésus a souffert en intensité plus que n'importe qui d'autre. Parce qu'il y avait une sensibilité qui était humaine et divine. Ça, il faut essayer de le contempler, de le comprendre. Pourquoi tant de tristesse, l'agonie ? Pourquoi souffrance, la flagellation, le portement de croix, la crucifixion. Et la crucifixion implique les plus grandes douleurs, lentes, la douleur de la soif. Pourquoi tout ça ? On doit se poser le problème, hein, si on veut entrer dans le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Pourquoi tout ça ? C'était tellement mieux de sauver l'humanité par son enseignement. Ça aurait été l'exaltation de l'intelligence. C'était tellement mieux de sauver l'humanité par un acte d'adoration. C'était tellement mieux de sauver les hommes par quelque chose de noble, de grand. Un geste héroïque. Ça, c'est l'enseignement du Christ. Non, il a voulu l'agonie et la croix. On doit pouvoir essayer de comprendre pourquoi. Et c'est nécessaire aujourd'hui. Il y a eu des disciples de Freud qui ont voulu expliquer l'incarnation et la rédemption. Je ne vous demande pas de les lire. Mais pour celui qui est suffisamment formé, c'est intéressant de voir ça. C'est terrible de voir que le Fils répare la faute du Père. Parce que le Père a commis une très grande faute créant l'homme comme ça. Alors le Fils vient réparer. Alors on a la dialectique du Fils et du Père, freudienne, qui explique que le Père massacre le Fils plus qu'il peut et le met dans un état d'infirmité pour que l'opposition soit plus grande. Tout ça n'explique rien. C'est dans une volonté commune